Sunweb Assurance, présente dans plus de 14 pays d'Afrique, assure la pleine forme de tous nos champions et championnes d'Afrique. Suivez Priorité Santé. Sunweb Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Priorité Santé, nous parlons de la drépanocytose, cette maladie du sang qui peut hypothéquer l'avenir des patients dès leurs premiers mois de vie. Un nom familier dans certaines régions du monde, même si encore beaucoup de fausses croyances sont associées à cette maladie héréditaire. La drépanocytose, maladie génétique la plus répandue dans le monde, qui concerne pour une large part des personnes issues de la communauté afro-caribéenne. Elle est associée à une série de symptômes et c'est sur l'une de ces manifestations que nous vous proposons de nous arrêter aujourd'hui. Ce signe, c'est la douleur. Les douleurs aiguës associées aux crises vaso-occlusives, ce symptôme associé à des gonflements qui peut alerter les parents de très jeunes enfants, douleurs que certains médicaments permettent d'atténuer et crises que certaines précautions, certaines règles de vie permettent d'espacer. Mais la prévention de la douleur n'est que l'un des volets de la prise en charge de la drépanocytose, maladie chronique qui peut entraîner des anémies, rendre plus fragile aux infections, provoquer des retards de croissance, une maladie systémique qui implique une prise en charge globale, encore hors de portée dans la plupart des zones où vivent précisément les populations les plus largement infectées. Alors si vous êtes directement confronté à la maladie, si quelqu'un l'est dans votre entourage, appelez-nous 33 84 22 75 75. Priorité santé, douleur, drépanocytose à l'occasion de cette journée mondiale dédiée à cette maladie génétique la plus fréquente en France, la plus fréquente sur le continent africain. Et c'est important d'en parler simplement justement pour apporter les connaissances de base au plus grand nombre. Et avec nous en studio aujourd'hui, docteur Anoucha Habibi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin à l'unité des maladies génétiques du globule rouge à l'hôpital Henri Mondor à Créteil en région parisienne, centre de référence des syndromes drépanocytaires majeurs. Et vous êtes également, docteur Habibi, responsable du diplôme universitaire syndrome drépanocytaire majeur à l'université Paris-Est Créteil. Nous allons joindre tout à l'heure à Kinshasa le professeur Léon Chilolo, pédiatre hématologue, directeur du centre de formation et de recherche du centre hospitalier mère-enfant Moncolé, président du réseau d'études de la drépanocytose en Afrique centrale, le REDAC. RDC, illustration aussi au Gabon avec une initiative de terrain en matière de sensibilisation. On va joindre Vanessa André, elle est présidente de la fondation Louise Grenier pour la santé et l'éducation à Libreville. Et puis, drépanocytose, enjeu de la collecte de sang de donneurs compatibles, puisqu'une partie des traitements repose sur un programme transfusionnel. On va en parler avec le docteur Jamel Benomar, directeur de la collecte de l'établissement français du sang Île-de-France. Et puis en fin d'émission, on va retrouver la chronique sport du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo.
Priorité santé sur RFI.
Alors aujourd'hui, docteur Anoucha Habibi, la drépanocytose est la maladie génétique la plus répandue au monde. Malgré tout, eh bien, son nom reste encore mystérieux pour une bonne partie de la population. Hein. Même quand on sonde ici à RFI, alors que tout le monde devrait savoir ce que c'est, eh bien non, il y a des gens qui disent la drépanocytose. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous arrivez à expliquer justement cette méconnaissance d'une certaine partie du public ?
En effet, c'est la première maladie génétique en France. Peut-être du fait que ça touche des populations particulières. À ce moment-là, on n'en a pas beaucoup parlé. Je ne sais pas quelle est la raison pour que...
Il y a peut-être une dimension communautaire, même si finalement, c'est une idée fausse, parce que ça ne touche pas uniquement les personnes en fonction de leur origine. Ça va bien plus loin que cela, puisque c'est une maladie génétique.
C'est une maladie génétique qui est très répandue en Afrique, mais maintenant, il y a des grands foyers en Inde, en Asie et dans tout le nord d'Afrique également. Et donc, c'est effectivement... Maintenant, on retrouve beaucoup de personnes qui sont porteurs de gènes, puisque c'est une transmission génétique des parents vers les enfants. On pense que dans des régions comme Paris, le dépistage devrait être systématique à la naissance des enfants même.
Alors, en France, il est. Dans les départements d'outre-mer, on pense notamment aux Antilles. Ce dépistage est systématique. Ce n'est pas encore le cas en région parisienne. Et on peut dire, docteur Anoucha Habibi, là, en Afrique, c'est carrément pas le cas du tout. Et pourtant, ce dépistage précoce, c'est absolument essentiel.
Tout à fait, parce que dès que les enfants sont dépistés, ils bénéficient d'une prise en charge. Et on sait qu'en Afrique, la première cause de mortalité chez l'enfant, c'est l'infection qui peut être évitée si les enfants ont un traitement par des antibiotiques de façon préventive.
Alors on parle aujourd'hui, on s'arrête sur les douleurs. On ne peut pas parler de la douleur associée à la drépanocytose. Il y en a plusieurs, docteur Habibi. Première question, on parle de douleurs d'une intensité très puissante, très forte. Justement, comment expliquer ces douleurs très puissantes ?
Ces douleurs, c'est des douleurs dues à un manque d'arrivée du sang et d'oxygène au niveau des différents tissus. Et les tissus les plus expressifs sont les os, les articulations, parce que les nerfs, le nombre de nerfs là sont très importantes et ils peuvent effectivement provoquer ces douleurs-là. L'intensité de ces douleurs sont très importantes, de l'ordre de, comme des fractures, je dirais, ouvertes, mais des patients de drépanocytaire qui ont déjà eu l'expérience d'une fracture, par exemple, ils vont vous dire que c'est rien à côté d'une crise.
Donc on imagine que c'est absolument insupportable.
C'est insupportable.
Et la localisation, c'est à des endroits précis de l'anatomie du corps ou ça peut être vraiment à des endroits très différents?
Ça peut toucher en fait tous les organes et tous les tissus, sauf que tous les organes ne sont pas innervés de la même manière. Et donc, c'est ressenti surtout au niveau des os et les articulations.
Docteur Anoucha Habibi, vous restez bien sûr avec nous. On rejoint tout de suite à Kinshasa le professeur Léon Tshilolo. Bonjour professeur Tshilolo.
Bonjour madame.
Et merci d'être avec nous. Je le disais tout à l'heure, en ligne de RDC, où vous présidez le réseau d'études de la drépanocytose en Afrique centrale. Alors il y a ces crises, dans le jargon des médecins, on dit crise vaso-occlusive, avec des douleurs aiguës. Qu'est-ce qui est proposé en termes de prise en charge quand on est traité, professeur Tshilolo, à Kinshasa?
Eh bien, malheureusement, la prise en charge, c'est pas comme celle que nous avons suivie au Nord. Tout simplement parce que une majorité de ces patients qui sont atteints de la drépanocytose ne savent pas qu'ils en souffrent, parce que nous n'avons pas encore un dépistage systématique qui permet de détecter très tôt cette maladie pour justement empêcher les complications. Et en ce qui concerne la douleur, je dois dire malheureusement, les enfants et les parents vivent souvent cette situation douloureuse en solitude, tout simplement, parce que le diagnostic est généralement fait que tardivement. Ce qui fait qu'un petit nourrisson qui pleure tout le temps, les parents et les médecins qui ne sont pas formés ne comprennent pas pourquoi il pleure. Et on ne lui propose pas nécessairement des antalgiques à temps. On va rechercher d'autres causes.
Alors, sur ces antalgiques, professeur Léon Tshilolo, qu'est-ce qui est à portée de main quand on parle, par exemple, comme vous le dites, d'un petit bébé qui a ce type de douleur, qu'est-ce qu'on peut lui donner pour le soulager?
Voilà, ce qu'on donne en pratique, en fonction de l'intensité de la douleur, c'est ce que propose l'OMS, ce sont les paliers des antalgiques, palier 1, palier 2, qui sont disponibles dans la majorité des pays africains, c'est-à-dire le paracétamol. C'est une protéine, c'est une molécule qui ne coûte pas trop cher, mais également aussi les anti-inflammatoires que l'on peut donner. Par contre, lorsque l'intensité est un peu plus importante, on peut rajouter une autre substance qu'on appelle codéine au paracétamol et qui permet de mieux contrôler cette douleur. Et au-delà de l'intensité qui dépasse ce palier 2, on devrait donner la morphine, mais on a malheureusement un problème. Cette dernière molécule n'est pas facilement accessible dans les pays africains.
Et en particulier, quand on part des grandes villes, des métropoles, peut-être que dans certains centres de traitement, notamment le vôtre, professeur Tshilolo, on peut justement être mis sous morphine quand on a vraiment des douleurs absolument insupportables. Mais quand on va en milieu rural, quand on va loin de Kinshasa, c'est loin là d'être le cas, hein, l'accès à ces produits justement pour souffrir moins.
Eh bien justement, c'est mon cas. Aujourd'hui, je vous parle pas à partir de Kinshasa, mais de Mbujimayi, un milieu rural où il y a une grande concentration de malades atteints de la drépanocytose. en dehors des produits de palier 1 et de palier 2, du paracétamol, les anti-inflammatoires, la codéine est très peu utilisée parce qu'aussi le personnel ne connaît pas l'utilité de la codéine combinée au paracétamol et la morphine, n'en parlons pas, elle n'existe pas du tout. Et c'est ça le grand défi, puisque la majorité des patients vivent en milieu rural et c'est dans ces milieux où manquent justement les produits essentiels.
Alors on peut faire face aux crises aiguës et puis il y a aussi des traitements qui permettent d'essayer d'espacer les crises. Et professeur Chilolo, vous travaillez aussi sur cette question.
Oui, nous avons fait une étude multicentrique dans plusieurs pays africains en utilisant une molécule qu'on appelle hydroxurée. Celle-là, c'est vraiment le traitement à préconiser dans tous ces pays parce qu'elle permet d'espacer les crises. Elle permet donc de réduire la douleur, elle permet de réduire les fameuses crises vaso-occlusives qui sont à la base de ces manifestations douloureuses. Mais hélas, là aussi, cette molécule n'est pas du tout disponible dans la majorité des pays africains, même s'il y a des grands efforts maintenant qui sont faits au niveau international pour que cette molécule puisse être accessible dans les pays africains.
Hydroxurée, docteur Anoucha Bibi, même traitement de référence que vous proposez à vos patients en région parisienne.
Tout à fait, c'est un traitement de fond qu'on utilise dès que la fréquence des crises augmente. C'est un traitement qui marche très bien.
Est-ce qu'il existe des contre-indications? On peut le donner dès le plus jeune âge?
On peut le commencer chez les enfants, mais le problème c'est surtout une infertilité qui peut provoquer, qui est réversible complètement,
mais qui peut inquiéter
les jeunes garçons ou les parents. Et à part ça, il n'y a pas d'autres soucis.
Docteur Anoucha Bibi, on a parlé tout à l'heure longuement avec le professeur Chilolo justement des différents modes de prise en charge de la douleur. Est-ce que dans votre service, vous travaillez donc, on l'a compris, dans un centre de référence pour les cas, on va dire, les plus graves, cette prise en charge de la douleur fait partie intégrante du protocole ou elle est confiée à des spécialistes? Quand on s'occupe de drépanocytose, on sait gérer tout de suite la douleur? Ça fait partie du travail?
Ça fait partie du travail parce que sans ça, on peut pas gérer les crises. D'ailleurs, on fait des formations pour tous les nouveaux internes qui arrivent sur l'hôpital régulièrement. Et il y a des protocoles qui ont été mis en place dans la plupart des urgences qui sont disponibles. Et en fait, les patients, dès leur arrivée, ils reçoivent des morphiniques et on essaye de les soulager très rapidement. Parfois, on arrive. Parfois, c'est plus compliqué.
Professeur Chilolo, docteur Anoucha Bibi, vous restez avec nous, on donne tout de suite la parole aux auditeurs de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Premier auditeur qui est en ligne de Guinée, de Conakry, c'est Eladj. Bonjour Eladj.
Bonjour Caroline.
On vous écoute, les médecins professeurs qui sont avec nous sont aussi à votre écoute, allez-y.
Bon, moi j'ai 24 ans.
Oui.
Il y a tout juste de cela, 2 semaines, on m'a diagnostiqué la drépanocytose. Mm-hmm. En fait, moi, souvent je tombais malade. Je passais mon temps dans les cliniques privées de la capitale. Mm-hmm. Mais le diagnostic qu'on me faisait là-bas, on me disait juste que j'avais le palu et la typhoïde. C'est en ce moment que la famille m'a recommandé un docteur où je me suis rendu. C'est en ce moment que le docteur m'a dit que je suis atteint de la drépanocytose. Ça fait 2 semaines de cela. Mmh. Et j'étais très inquiet vu que je n'ai aucune idée sur la maladie. Il m'a donné quelques explications, soi-disant que je suis atteint de la drépanocytose et c'est une maladie héréditaire, chose que je ne connaissais pas. Et j'ai 24 ans.
Vous n'aviez pas dans votre famille d'autres personnes qui avaient des symptômes un petit peu comme vous, de grosses fatigues, des infections, non?
Bon, on en avait, mais on ignorait qu'on avait cette maladie. Bon, souvent, ça m'arrive, chaque fois je suis fatigué, bon, il y a des travaux qui sont trop durs là, je n'arrive pas à les faire.
Et ce diagnostic, le médecin l'a fait après vous avoir fait passer des examens de santé en particulier? Qu'est-ce que vous avez eu comme analyse?
Oui, en fait, j'ai fait des examens. Il m'a dit que je suis atteint de cette maladie. En fait, il m'a proposé aussi certains produits, les remèdes.
Et il vous a donné, attendez, je vais donner tout de suite la parole au docteur Anoucha Habibi qui a une question à vous poser, allez-y.
Bonjour monsieur Elhadj. Donc ils vous ont dit quel type de drépanocytose vous aviez?
Bon, il ne me l'a pas expliqué, mais juste il m'a dit qu'il y a plusieurs types de drépanocytose. Il m'a juste dit que je suis atteint de la drépanocytose. Il m'a même prescrit un produit, je ne sais pas, du nom acide folique.
Oui.
Il m'a dit souvent de prendre ce produit, ça va beaucoup m'aider.
Oui, tout à fait.
Et aussi, il m'a dit, par exemple, une chose qui m'a beaucoup inquiété, que quand je vais épouser une femme, il faudra que la femme fasse des examens, voir que si elle n'est pas atteinte aussi de la drépanocytose, pour ne pas que les enfants soient affectés.
D'accord. Donc, c'est une maladie effectivement héréditaire. Et on a deux hérédités, une qui vient de la mère et une qui vient du côté paternel, du père. Donc, si des deux côtés, on a cette maladie-là, effectivement, la maladie s'exprime par des douleurs, par la fatigue et par une susceptibilité à l'infection. Et dans ces cas-là, effectivement, il vous faut des vitamines. Donc, l'acide folique, c'est une vitamine, ça s'appelle le vitamine B9. Et ça permet de fabriquer du sang. Ça aide... Il est nécessaire dans la fabrication du sang.
Et là, vous l'avez pris, ce médicament?
Oui, je l'ai pris.
Est-ce que vous sentez mieux depuis?
Oui, effectivement, sincèrement, ça va mieux maintenant, ça va. Mais les conseils qu'il m'a donnés, bon, oui, ça va.
Et il vous a donné d'autres conseils de vie, justement, pour aller mieux, notamment boire beaucoup d'eau, bien vous écouter, bien vous reposer quand vous êtes fatigué?
Effectivement, il m'a demandé aussi de ne pas être trop fatigué. Même le sport, il me l'a un peu, disons, interdit.
Vous faisiez quoi comme sport?
Bon, je joue souvent au football, donc tout ça.
Professeur Léon Tchilolo, j'imagine que vous êtes à l'écoute de ce que nous dit Elhadj. Sur les activités physiques, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? On dit, avant, on disait ne faites pas de sport, mais maintenant on a peut-être un petit peu révisé ce jugement, non?
Mais oui, on a revu un peu les choses. D'abord, je voudrais dire une chose. Le cas du monsieur, c'est typique en Afrique, c'est un diagnostic tardif. Puisqu'on ne fait pas une recherche systématique, on aurait pu le diagnostiquer à la naissance, il y a 20 ans probablement. Malheureusement, on va le découvrir un peu plus tard. Et ça va provoquer un peu, je pense, à son niveau personnel, un petit choc, si vous voulez, de se découvrir malade, d'une maladie d'ailleurs dont il ne comprend pas les tenants et les aboutissants. Et en ce qui concerne le sport, c'est vrai que dans le temps, on ne conseillait pas tellement, mais on ne conseillait pas le sport compétitif. Le sport ou la gymnastique adaptée à l'âge et aux conditions physiques de l'enfant, ça c'est vraiment souhaité. Les derniers travaux montrent au contraire qu'il y a une amélioration de l'état général des malades qui font une activité physique.
Et là, vous n'allez pas participer à la Coupe d'Afrique des Nations? Donc vous pouvez continuer à faire du foot, ça devrait aller, non? En vous écoutant bien, docteur Anoucha Habibi, bien s'hydrater, en tout cas quand on fait du sport.
Tout à fait. En fait, le sport conseillé, c'est les sports d'endurance. Donc tout ce qui est avec une activité très forte, d'ailleurs ce qui est le cas dans le foot quand on court d'un seul coup, ça c'est plutôt déconseillé. Donc il vaut mieux faire du sport régulièrement, vous écouter, bien vous hydrater, ne pas vous découvrir quand vous transpirez. Et normalement, il n'y aura pas de problème.
Voilà, Elhadj. En tout cas, très bonne journée à vous à Conakry en Guinée. On reste dans cette capitale de la Guinée où l'on retrouve, oui, Saïdatou qui est en ligne. Bonjour, Saïdatou.
Bonjour.
On vous écoute. Allez-y.
Bonjour, c'est drépanocytaire SS.
Bonjour.
J'ai 34 ans. Je viens de me marier il y a quelques mois.
Mm-hmm.
Maintenant, j'avais des questions concernant la douleur, la grossesse et la thérapie génique.
Alors, allez-y, on vous écoute.
On vous écoute.
Bon, je voudrais savoir, malgré la prise en charge rapide et adéquate pendant une crise, pourquoi les douleurs persistent au-delà de 2, 3, 4 jours?
On vous donne quoi comme antidouleur dans cette prise en charge?
Bon, quand la crise est sévère, souvent, c'est du Trabar injectable et de l'Acupan, plus du Perfalgan. Maintenant, relayé par les comprimés, soit du Trabar ou bien du Clipalcodéiné.
Professeur Léon Tchilolo, Saïdatou a donné une série de médicaments. Vous avez connaissance de ces antalgiques et lui expliquer pourquoi, même si elle les prend pendant un à deux jours de suite, eh bien, elle ressent toujours ces douleurs très intenses?
Oui, en fait, elle prend du tramadol et elle prend aussi de la paracétamol codéinée, ce qui est tout à fait bien, mais malheureusement, ça ne suffit pas pour arrêter certaines douleurs qui nécessitent des produits beaucoup plus forts, comme la morphine. Et la morphine, comme je vous l'avais dit, elle n'est pas du tout disponible dans la majorité des pays africains. Et donc, c'est pour ça que sa douleur n'est pas contrôlée après 2-3 jours. Au Nord, lorsque un malade arrive au service des urgences, selon l'intensité de la douleur, il reçoit parfois déjà d'emblée la morphine, ce qui n'est pas le cas dans nos pays africains. Donc, enfin, je voudrais dire aussi une chose, c'est qu'il existe des douleurs chroniques qui, malheureusement, surtout chez les adolescents, des douleurs de dos, qui ne sont pas du tout faciles à prendre en charge, en dépit de ces produits antalgiques. Il faut parfois recourir à d'autres formes de thérapeutiques, comme la médecine parallèle, comme on l'appelle, l'acupuncture ou d'autres solutions.
Voilà, Saïda Tou sur la partie douleur. Vous pouvez y aller pour vos autres questions, on vous écoute.
Oui, maintenant, quelles précautions prendre pendant la grossesse pour mener à bien une grossesse?
Quand on est drépanocytaire SS comme Saïda Tou, qu'est-ce qu'on doit faire pour mener à bien la grossesse? Est-ce qu'il y a des conseils particuliers?
Non, il faut bien vous reposer, bien vous hydrater. Si c'est possible, l'accouchement, vous pouvez accoucher normalement comme toute femme, bénéficier du péridural. On essaye souvent de vous faire accoucher avant terme pour que tout le monde soit là, mais bon, ça dépend un petit peu des conditions locaux, donc je peux pas
se prononcer, c'est en fonction de l'hôpital, tout à fait,
ça dépend des hôpitaux. Ça nous arrive de recourir aux transfusions si les crises sont fortes pendant la grossesse, de l'oxygène, ça peut aider également quand il y a des crises.
Et puis il y avait une dernière question, Saïda Tou, que vous vouliez nous poser, allez-y.
Oui, c'est concernant la thérapie génique. Nous voyons que c'est une solution maintenant pour nous soulager, voire même nous guérir, mais avec le coût, ce n'est pas accessible.
Non seulement le coût, Saïda Tou, mais aussi l'accès, hein, parce que ça se développe pas dans toutes les régions du monde. Professeur Léon Tshilolo, forcément, cette thérapie génique, c'est porteur d'un immense espoir, mais il y a encore du chemin, beaucoup de chemin à parcourir.
Oui, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, surtout dans les pays où on ne sait déjà pas faire le dépistage. Il faut d'abord recourir aux moyens les plus simples, que ma collègue de Paris a évoqué, la pénicillino-prophylaxie, utiliser les molécules accessibles comme l'hydroxurée. Et plus tard, là où ça sera possible, là où les indications sont réellement portées, on pourrait faire la greffe de moelle et la thérapie génique. Disons que c'est un très bon rêve, on ne peut pas s'en empêcher de l'avoir, mais ce n'est pas encore accessible pour la majorité des pays africains.
Saïda Tou, voilà pour ses réponses. On vous souhaite une bonne journée à Conakry. On part pour le Bénin, pour Calavi, où l'on retrouve Diloua. Bonjour Diloua, on est à votre écoute, allez-y.
Oui, bonjour.
Allez-y.
Bonjour.
Oui, je suis aussi un drépanocytaire.
Oui.
Et je fête aujourd'hui mon 27e anniversaire.
Mm-hmm.
Et bon, moi j'aimerais poser une question, à savoir, est-ce que en fonction de l'âge ou bien en fonction des répétitions des crises, est-ce qu'on peut savoir le type de la drépanocytose?
Qu'est-ce qu'on vous a dit à vous, Diloua? On vous a dit que vous étiez de quel type?
Bon, au début, l'année que j'ai fait, on me dit que je suis de type AS.
Oui.
Et en décembre, ici, quand je suis venu pour les études au Bénin, j'ai fait une crise encore. Et au mois de décembre, j'ai fait l'examen, on me dit que je suis de type SS.
Alors, docteur Anoucha Habibi, est-ce qu'on peut changer comme ça de... C'est pas un statut de type, non? C'est peut-être qu'il y avait eu un problème au premier test, tout simplement.
Tout à fait. Je pense que le premier test ou le deuxième test, je ne peux pas me prononcer puisque je ne connais pas vos tests que vous avez faits. Mais les tests ne changent pas au cours de temps. C'est-à-dire que votre hérédité ne peut pas changer. Vous pouvez pas changer de couleur des yeux, de couleur de peau. Donc, une fois qu'on a une gène, on le garde. Si vous êtes SS, vous l'êtes depuis le début. Et si vous êtes AS, vous l'êtes depuis le début. Et ça peut pas changer. Par contre, si vous faites des crises et que récemment, ils ont fait des tests, c'est probable que vous soyez SS homozygote. Donc.
Voilà pour cette réponse, Diloua. Très bonne journée au Bénin. On prend un dernier auditeur, c'est Dieudonné qui est en Côte d'Ivoire. On vous écoute, Dieudonné, allez-y.
Oui, allô, bonjour madame.
Allez-y,
bonjour.
On vous écoute.
Oui, moi j'ai un problème un peu particulier parce que depuis un certain moment, ça fait à peu près un an, que je suis avec une fille. Nous sommes tous deux drépanocytaires, mais à des degrés différents. Moi, je suis AS et elle, je crois, elle est SS. Ce dont nous nous sommes rendus compte très récemment. Maintenant, le problème, c'est que elle tient à procréer et je voudrais savoir si la médecine moderne pourrait nous aider à concevoir et avoir des enfants sains.
Une inquiétude.
Et quel pourrait être l'état de ces enfants-là?
Une inquiétude tout à fait légitime hein, pour beaucoup de parents. Quand on est drépanocytaire, quand on a envie de fonder une famille, ben on a envie que ses enfants naissent en bonne santé, c'est bien compréhensible. Docteur Anoucha Habibi, qu'est-ce qu'on peut dire justement à Dieudonné à ce sujet?
Donc, je peux vous assurer déjà que si vous êtes AS, il ne faut pas vous appeler drépanocytaire. Pour moi, vous êtes porteur sain du gène. Et donc, nous, on se bat pour que vous ne soyez pas appelé drépanocytaire. Deuxième chose, c'est que donc effectivement, il y a un risque de transmission si votre épouse est SS. Donc dans 50% des cas, il y a un risque que le futur enfant soit drépanocytaire SS, donc malade. On a les moyens maintenant de faire les tests préventifs avant 3 mois pour voir si le fœtus est atteint de la maladie ou pas. Ça s'appelle diagnostic prénatal et si vous ne souhaitez pas avoir des enfants malades, on peut effectivement faire une interruption thérapeutique de grossesse.
Alors ça, on dit que c'est accessible, docteur Anoucha Habibi, on sait que c'est accessible en France, en Europe. Professeur Léon Tchilolo, Dieudonné nous appelle de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez connaissance, justement, est-ce que ce type de test est possible en Afrique de l'Ouest, en particulier en Côte d'Ivoire?
Eh bien, je ne pense pas qu'en Afrique de l'Ouest et en Côte d'Ivoire, il soit possible de faire des diagnostics en période anténatale pour des raisons pratiques, d'abord techniques, et beaucoup très peu de centres sont en mesure de faire ces études, puisqu'il faut le faire sur le sang prélevé, sur le fœtus dans le ventre de la maman, pour faire ce diagnostic ou pas, un diagnostic de biologie moléculaire. Et puis d'autre part, il y a d'autres limites qui sont légitimes, hein. C'est la limite culturelle. La majorité des parents ne comprendront pas la nécessité de faire un diagnostic si c'est pour pouvoir nécessairement soit interrompre la grossesse, soit savoir qu'on a une sanction, que l'enfant qui va naître sera un drépanocytaire ou homozygote.
Donc on a bien compris, ça met bien en avant encore une fois hein, les différences d'accès au traitement, aux soins et les limites justement de ces recours thérapeutiques quand on a justement quand on est concerné par une pathologie comme la drépanocytose. On vous remercie beaucoup hein, de votre question et de votre appel. Dieudonné, excellente journée en Côte d'Ivoire. On va poursuivre cet échange. On a bien compris aussi que la maladie quand elle se déclarait pouvait se déclarer dans les premières années de la vie, d'où l'importance du recours à la famille et aussi, hein, dans certaines régions, du travail des associations. Tout de suite, une illustration.
Priorité santé sur RFI.
Illustration avec vous, Vanessa Dandé. Bonjour.
Bonjour Caroline Paré.
Vous êtes présidente de la Fondation Louise Grenier pour la santé et l'éducation à Libreville au Gabon. Vanessa Adandé, est-ce que vous pouvez nous décrire les actions qui sont menées par votre fondation?
Alors, on se focalise principalement sur le dépistage, parce que pour nous c'est très important de mettre l'accent sur la prévention de la maladie. Et qu'on s'est rendu compte, en fait, dans le lancement de ces actions, que beaucoup de personnes connaissent la drépanocytose, mais la méconnaissent, en fait.
Alors, ça passe par l'information, la sensibilisation, mais aussi des actions concrètes. C'est ce que vous faites en ce moment même avec votre caravane. Ça va se passer entre Libreville et Owendo, c'est bien ça?
C'est ça. Donc, sur les 3 communes, donc Libreville, Akanda et Owendo, une caravane de dépistage gratuit qu'on a appelée le Drépatour, en collaboration avec le Centre National de Transfusion Sanguine, donc où le public pourra se faire dépister de la drépanocytose et également donner du sang.
Dépistage gratuit, prise de sang dans le bus, et puis les tests sont effectués par un laboratoire partenaire, c'est bien ça?
C'est ça.
Alors comment cibler une sensibilisation adaptée? Comment s'adresser aux différentes populations, Vanessa Adande? Il y a encore un aspect qu'on n'a pas abordé dans cette émission, mais qui est particulièrement criant sur le continent africain. C'est un certain nombre de fausses croyances associées à la drépanocytose, qui entraîne même des freins culturels dans sa prise en charge. Comment est-ce qu'on parle de la drépanocytose simplement aux gens?
Pour moi, c'est important de libérer la parole, et ça va demander l'implication de tout le monde, des malades, des parents des malades, des médecins, mais aussi des pouvoirs publics. Donc, on a commencé notre action ce matin par une conférence débat, donc à l'Institut français, avec l'intervention de plusieurs médecins qui se sont spécialisés dans le dépistage et la prise en charge de la maladie. Parce que c'était important de clarifier certaines choses et de faire en sorte que les personnes concernées ou le public en général sachent exactement ce qu'est la maladie, comment elle se transmet et comment éviter de la transmettre surtout.
Alors tout à l'heure vous avez parlé de vos interactions avec le centre de transfusion. Justement, est-ce que vous entretenez d'autres relations avec les autorités sanitaires gabonaises? Est-ce que justement ça, tout ça se passe dans un cadre d'action assez global au niveau national?
Alors c'est vraiment l'effort dans lequel on va se mettre pour l'année. Donc pour nous c'était important de commencer par une action grand public pour pouvoir ensuite avoir des données à présenter au pouvoir public parce qu'on manque cruellement de données statistiques. Donc on voulait vraiment avoir un retour du public sur ces croyances justement qui peuvent freiner la prise en charge des malades, sur combien de malades ou combien de dépistages, disons, positifs on va avoir à l'issue de la caravane. Donc pour nous, c'était important d'avoir tout ça pour pouvoir approcher les pouvoirs publics.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Vanessa Adande. Bonne chance pour votre caravane. Vanessa, présidente de la Fondation Louise Grenier pour la santé et l'éducation à Libreville au Gabon.
RFI à Libreville. 104 FM.
J'aimerais qu'on revienne avec vous, professeur Léon Tchilolo, sur ces fameuses fausses croyances. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que la drépanocytose est encore une maladie qui fait peur?
Oui, c'est encore une maladie qui fait peur, parce que c'est encore une maladie de l'ignorance. Beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est. Il y a encore des croyances comme quoi c'est lié à une malédiction, ou encore c'est lié tout simplement au mauvais sang, hélas, considéré seulement au niveau de la maman. Et souvent, le mari ne se sent pas participatif dans la naissance d'un enfant drépanocytaire. C'est la raison pour laquelle je salue vivement les initiatives des associations qui font des campagnes de sensibilisation. Ce que nous faisons ici aussi en RDC, en particulier à l'occasion de cette journée mondiale de la drépanocytose, des campagnes sur les radios télévisées. Mais aussi, il faut aller là où les gens ont l'habitude d'aller. Pour le moment, dans nos milieux africains, c'est dans les lieux de culte. Nous faisons des campagnes au niveau des lieux de culte pour qu'on puisse sensibiliser la population sur la transmission héréditaire de cette maladie et sur le fait que ce n'est pas une fatalité et que ce n'est pas du tout une malédiction. Et surtout, on garde un message positif en disant que lorsqu'on a une prise en charge améliorée, précoce, ces enfants peuvent avoir une vie nettement meilleure.
Avec justement une espérance de vie qui s'est quand même améliorée pour ces enfants, en particulier de 0 à 5 ans.
Oui, avec les années qui sont passées, la mortalité s'est quand même réduite, du moins pour les enfants qui sont régulièrement suivis, parce que on est passé, disons, à une mortalité où on avait 3 enfants sur 4 qui mouraient avant l'âge de 5 ans. Et maintenant, dans les centres où les enfants sont bien suivis, cette mortalité est réduite à 50%. Et encore, dans des pays comme le Bénin, dans le centre de Chérif Raimi, la mortalité des enfants drépanocytaires est tout à fait inférieure à la mortalité infantile dans le pays.
Parce que les enfants sont surveillés de très près.
Oui, ils sont mieux suivis, ils sont surveillés de très près, et donc ils ne meurent plus comme avant.
Pour revenir à la prise en charge en France, docteur Anoucha Habibi, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, parce qu'on a les moyens bien sûr en France de soigner les personnes qui sont concernées par la drépanocytose, le gros travail c'est l'information, la sensibilisation ?
Tout à fait. C'est-à-dire que la drépanocytose n'est pas connue de toutes les professions médicales et il arrive encore que mes patientes se présentent à des urgences dans des hôpitaux français, donc qui connaissent pas cette maladie. Et comme c'est une maladie qui ne se voit pas, les médecins sont réticents de leur donner des morphiniques lorsqu'ils se présentent des crises.
Oui. Retard de prise en charge qui est tout à fait préjudiciable.
Exactement.
Alors justement, on parle de population cible, on a compris de formation des soignants, accès au traitement, et au cœur de ces traitements, eh bien, il y a la transfusion. Pour en parler avec nous, docteur Jamel Benomar, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Vous êtes directeur de la collecte de l'établissement français du sang Île-de-France. J'ai lu ces chiffres, 20 000 drépanocytaires en France, 8 000 en région parisienne. Certains patients qui nécessitent des transfusions régulières. Docteur Jamel Benomar, il y a bien sûr un appel de l'établissement français du sang parce que ce qui entre en jeu là, c'est la question de la compatibilité sanguine. Expliquez-nous de quoi il retourne.
Absolument. Le cœur du traitement de la drépanocytose, de sa prise en charge, est bien sûr la transfusion sanguine. C'est cette maladie qui nécessite souvent des transfusions sanguines de concentrés de globules rouges essentiellement. Il y a une notion de compatibilité qui est fondamentale. Et la distribution des groupes sanguins dans le monde se fait de façon régionale. Vous allez trouver plus de groupe B en Asie qu'en Europe, mais aussi certains groupes sanguins spécifiques ne sont retrouvés que dans des populations d'origine afro-caribéenne. C'est ce que l'on appelle cette compatibilité sanguine qui est donc fondamentale.
Parce qu'il y a pas, quand il n'y a pas de compatibilité, il faut bien expliquer aux gens, c'est qu'on risque de rejeter le sang qui nous est donné, donc de faire des résistances, un peu comme quand on est greffé, quand on rejette le greffon, là c'est le sang qu'on va rejeter, j'essaie de vulgariser au maximum. Donc votre appel, pour être clair, docteur Benomar, c'est à celles et ceux qui sont en région parisienne, qui sont en bonne santé, issus de la communauté afro-caribéenne, on sait qu'ils sont très nombreux à l'écoute de RFI, eh bien allez donner votre sang parce que vous pouvez aider notamment des enfants qui souffrent de la drépanocytose. On les retrouve dans les grands centres pédiatriques, il faut qu'ils viennent régulièrement faire ces transfusions. C'est pas toujours marrant, mais c'est vital pour eux, donc il faut donner son sang, c'est bien ça.
C'est absolument vital. Vous savez que tous les ans, nous ne prélevons qu'aux alentours de 13 000 concentrés de globules rouges par an à l'EFS Île-de-France, alors qu'il nous en faudrait entre 32 et 36 000. Donner son sang est un geste absolument anodin. Il n'y a absolument pas de conséquences. Il suffit d'être âgé de plus de 18 ans, avoir pesé plus de 50 kilos et venir avec une pièce d'identité sur l'un de nos sites fixes ou de nos collectes mobiles que nous organisons tous les ans. Il y a une appli actuellement qui a été mise en place par notre établissement, une appli que vous pouvez télécharger et qui vous donne instantanément voir si vous pouvez être éligible au don du sang et surtout de savoir quels sont les points de collecte sur lesquels vous pouvez vous présenter pour faire ce don du sang qui, je rappelle, en France n'est adressé, ne concerne que des gens dont le pronostic vital est mis en jeu. Donc une personne qui donne du sang, c'est 3 vies de sauver, madame.
Docteur Jamel Benomar, comment vous faites pour justement cibler ces populations spécifiques? Là, RFI, on voit, ça peut être plutôt bien, mais qu'est-ce que vous faites d'autre?
Alors, nous avons pris de nombreux contacts depuis maintenant quelques années avec le tissu associatif qui s'adresse essentiellement à ces populations afro-caribéennes, absolument. Mmh. Donc, il y a vous qui nous aidez, mais il y a aussi quelques radios, quelques médias, du papier, il y a aussi des médias audiovisuels qui nous permettent de relayer cette information. Mais nous allons aussi collecter dans des endroits où on risque de retrouver beaucoup de gens à phénotype d'intérêt pour.
Merci beaucoup, docteur Jamel Benomar. Je rappelle que vous êtes directeur de la collecte de l'établissement français du sang en Île-de-France. Et on le redit une nouvelle fois, ça fait un peu propagande, mais on se prive pas. Si vous êtes en bonne santé, issu de la communauté afro-caribéenne, allez donner votre sang, c'est important pour toutes les personnes concernées, notamment, mais aussi par d'autres pathologies, notamment par la drépanocytose. Alors, on arrive au terme de cette émission consacrée à la prise en charge des douleurs. Professeur Léon Tchilolo, on a beaucoup insisté sur les inégalités territoriales. Vous diriez qu'aussi, chez vous, en République démocratique du Congo, ces inégalités, elles sont effectives également pour la transfusion.
Oui, c'est tout à fait vrai, puisque à Kinshasa, On a une banque de sang, hein, on a un programme national de transfusion sanguine, mais dans les milieux ruraux, cette sécurité transfusionnelle n'est pas assurée. La majorité des donneurs sont des donneurs familiaux, donc ils ne sont pas nécessairement bien testés, et c'est le cas dans le Kassai ou dans la ville de Mbujimaï, où le sang n'a pas la même sécurité transfusionnelle qu'au niveau de Kinshasa. Et ces inégalités sont dues aussi au fait que les infrastructures ne sont pas de même niveau, ce qui explique que la chaîne de froid n'est pas bien respectée. Et donc souvent, c'est du sang chaud que l'on donne. Malheureusement, dans la majorité des pays africains en milieu rural, c'est le sang de la maman, lorsque c'est compatible, que l'on va donner à l'enfant.
Alors, justement, pour parler de ces questions locales dans la plupart des pays d'Afrique, hein, la drépanocytose, c'est une véritable urgence de santé publique. Est-ce que vous avez le sentiment, professeur Léon Tshilolo, que les moyens sont à la hauteur des besoins? Je pressens la nature de votre réponse.
Eh bien, pas du tout. Les moyens ne sont pas du tout à la hauteur des besoins, ni à la hauteur des priorités. Je dirais déjà par le fait qu'il n'y a aucun financement international, hormis les quelques bonnes volontés des associations, comme les associations françaises, l'ISCD, Drépafrique, la Fondation Pierre Fabre, etc., qui aident, qui contribuent beaucoup à la prise en charge de ces malades dans les pays africains, mais il n'y a pas de financement au niveau de gouvernements locaux, dans la majorité des cas, et encore moins au niveau des institutions internationales. On donne une grande priorité pour financer les maladies comme la malaria, et on oublie que la drépanocytose, elle est née justement de la malaria. C'est l'enfant, c'est la fille aînée de la malaria, mais qui est une maladie oubliée, orpheline.
Alors justement, professeur Léon Tshilolo, quand on n'a pas de moyens, est-ce qu'il y a des mesures du quotidien pour soulager la vie des drépanocytaires? Conseil de vie, conseil, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on vive mieux, malgré tout, quand on est malade?
Eh ben, avant tout, il faut accepter sa maladie. Et ça, c'est fondamental. Ça passe justement sur ce qu'on a vu avec les associations, la sensibilisation, l'éducation. L'éducation thérapeutique des malades, c'est important. Mais chez nous, c'est aussi l'éducation du personnel soignant. Le personnel soignant doit savoir adapter la prise en charge selon ses moyens, selon ses possibilités. Et on l'a entendu dire de la collègue Anouchia que un des moyens les plus simples, c'est la réhydratation, c'est boire beaucoup d'eau, éviter les gros efforts, éviter les infections. Et chez nous en Afrique, c'est se protéger contre la malaria en dormant sous les moustiquaires imprégnés et éviter les infections en étant correctement vacciné et en prenant la pénicillino-prophylaxie. Ce sont les conseils qui sont accessibles dans presque tous les milieux africains.
Très important de vacciner, peut-être même avec d'autres pathologies en plus que le programme minimum. Qu'est-ce que vous dites justement aux mamans qui arrivent avec des bébés après quelques mois qui ont déclaré la maladie?
Eh ben, on leur dit, maman, votre enfant qui est atteint de la drépanocytose devra faire des rappels pour certains vaccins. Heureusement, dans la majorité des pays africains, les vaccins anti-pneumocoque et anti-hémophilus sont entrés justement dans le programme national des vaccinations. Mais il faudra faire des rappels pour les drépanocytaires, parce qu'on vaccine jusqu'à l'âge de 2 ans, et au-delà de 2 ans, il faut faire des rappels. Et donc il faut rappeler aux parents de revenir dans les centres de santé pour faire des rappels. Par exemple, le rappel avec un vaccin anti-pneumocoque, lorsqu'ils ont reçu à la naissance le Prevnar 13, qui est maintenant généralisé dans le programme élargi de vaccination.
Merci beaucoup, professeur Léon Tshilolo. Je rappelle que vous étiez en direct de Kinshasa, pédiatre, hématologue, directeur du centre de formation et de recherche du centre hospitalier mère-enfant Moncolé, président du réseau d'études de la drépanocytose en Afrique centrale. Dernière question à vous, docteur Anoucha Habibi. Tout à l'heure, on a parlé de cette transfusion, outil justement d'attaque contre la drépanocytose. Cette transfusion, elle s'adresse à quel type de malade, à quel moment de la maladie?
Alors, ça peut être utilisé comme un moyen préventif des complications lorsque chez les enfants on découvre des problèmes au niveau des vaisseaux cérébraux, une vasculopathie.
Et qui fait craindre un AVC par exemple.
Exactement. On sait que si on ne continue pas le programme transfusionnel, il risque de faire un AVC. Donc c'est un programme transfusionnel au long cours. Ces enfants, s'ils ont des donneurs pour la greffe de moelle, ils seront greffés a priori. Voilà. Après, dès qu'il y a une complication, une atteinte d'un organe, une cardiomyopathie, le cœur, le rein, le foie, effectivement, il faudra continuer le programme transfusionnel. Chez les enfants, les programmes transfusionnels sont mis en place un peu plus facilement parce qu'ils sont en pleine croissance. Il ne faut pas que la scolarité soit perturbée. Mais chez les adultes, on essaye plutôt les traitements de fond par hydroxyurée.
En tout cas, on a bien compris, chez les enfants, ils sont systématiquement pris en charge dans un cadre hospitalier.
Les programmes transfusionnels peuvent se faire que dans un cadre hospitalier.
Merci beaucoup. Merci à vous, docteur Anoucha Bibi. Je rappelle que vous êtes médecin à l'unité des maladies génétiques du globule rouge à l'hôpital Henri Mondor à Créteil, en région parisienne, centre de référence pour les cas de drépanocytose majeure. C'est bien cela?
Oui, tout à fait.
Très bonne journée à vous. Merci beaucoup.
Merci à vous.
L'activité physique, le sport, la compétition dans Priorité Santé. Avec vous, docteur Jean-Marc Sen. Bonjour.
Bonjour Caroline.
Médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. On le sait, la Coupe du Monde féminine de foot, c'est en ce moment. Mais le football en Europe, eh bien, ce sont surtout des hommes qui jouent à ce sport. Docteur Sen, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les bienfaits chez les femmes du ballon rond ?
Absolument. D'abord, il faut se rappeler, Caroline, que le football est le sport d'équipe le plus populaire au monde. Et puis, il faut savoir qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont adeptes du football. Et c'est une très bonne chose. Parce que, en fait, ça améliore plein de qualités physiques. Ça améliore l'équilibre, la résistance, ça développe les muscles, ça permet d'augmenter la vitesse, l'adresse. On sait également que l'endurance cardiovasculaire est améliorée. La fonction respiratoire également est améliorée. Et puis, on augmente aussi la résistance osseuse. C'est la même chose, si les personnes veulent perdre un peu de poids, eh bien le football sera le meilleur allié pour tout cela. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est un moment de détente extraordinaire avec les amis, c'est l'occasion de resserrer des liens ou au contraire de faire des nouvelles rencontres.
Alors, est-ce qu'il y a des précautions à prendre avant de se lancer et de rejoindre le stade ?
Pour toutes les jeunes filles qui sont en pleine forme, eh bien, il n'y a aucun problème, bien évidemment, pour jouer au football. Simplement, si vous avez plus de 50 ans, il faudra faire un examen cardiaque parce que pour savoir si vous êtes encore capable de vous entraîner. Évidemment, en cas de grossesse, consultez votre médecin pour savoir si vous pouvez encore pratiquer. Et puis, sinon, évidemment, méfiez-vous des traumatismes à la tête, aux blessures du genou qui sont quand même relativement fréquents au niveau du football. Être vigilante sur vos gestes et puis se protéger avec des équipements. Ne pas oublier le protège-tibia qui est quand même extrêmement important. De prendre des chaussures à crampons pour éviter de glisser. Et puis, shorts qui peuvent être renforcés au niveau des hanches. Et puis, pourquoi pas, des dessous tels des brassières qui sont spécifiques pour mieux gérer également les chocs.
Et puis, qui dit sport, dit forcément échauffement, à ne pas oublier.
Et oui, il faut absolument s'échauffer correctement. Alors, un échauffement cardiovasculaire avec une course qui durera une quinzaine de minutes, un travail musculaire également et des assouplissements. Il y aura aussi un travail technique avec des passes, des tirs au but qui pourront être faits. Et puis, tout cela, on sait que, voilà, après cet échauffement, on pourra jouer une heure de football trois fois par semaine. Et ça sera absolument bénéfique pour la santé, et ça sera extrêmement amusant. Et puis, une bonne récupération après l'effort sera quand même nécessaire pour éviter les douleurs musculaires, les tendinites et les crampes. Et puis là, puisque c'est la période de la Coupe du Monde de football, je suis obligé de le dire, j'en suis désolé, allez les Bleus.
C'est quand même, parce qu'elles ne sont pas toutes seules. Merci à vous, docteur Jean-Marc Sen. Je rappelle que vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo.
Et ancien médecin de l'équipe de France de football féminin.
Ben, comme quoi, vous savez de quoi vous parlez. Merci, à bientôt dans Priorité Santé. Et notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui, chaque jour, la fabrique, la réalise. C'est tout ça, Maquet, Ophélie Lassène, Didier Bleu, aujourd'hui Laurence Lowe. Demain, nous allons parler des affections ORL, otite, angine, sinusite, prévention, traitement. On attend vos messages, vos questions sur la page Facebook de l'émission. Aussi, bien sûr, à notre numéro 33 84 22 75 75. Et on se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance qui assure la pleine forme de nos champions et championnes d'Afrique. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.